On va prier et puis on va se tourner dans Luc 15. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ton amour pour nous. Merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole. Seigneur, qu'elle est riche, qu'elle est pleine de toi, Seigneur. Cette parole qui nous révèle qui tu es, qui nous montre ta relation envers nous, ton amour pour nous. Ton amour, cet amour actif, Seigneur, que tu es venu pour nous chercher, Seigneur, pour nous trouver. Et on veut être ouvert ce matin à ta parole, ce qu'elle a à nous dire, à nous communiquer, Seigneur, que ta parole puisse nous atteindre, Seigneur, par ton Esprit Saint, là où nous en avons besoin, Seigneur. Et nous en avons besoin, Seigneur. Parle-nous ce matin. Nous te demandons. Amen. Luc 15. Ce matin, pendant la louange, je ne vous ai pas fait lever. Et comme on fait toujours un peu d'exercice à l'église, si vous voulez vous lever pendant qu'on lit la parole de Dieu ensemble, pour vous réveiller un peu, pour faire circuler le sang. Donc, Luc 15, verset 1. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve ? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et une des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres et à moi jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. » Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans le chapitre 14, Jésus avait eu des paroles dures. Il avait émis un défi très dur. Il avait dit, ça va vous coûter de me suivre, ça va être quelque chose. Vous vous dites, chouette, on va y aller facile. Et il veut leur communiquer vraiment ce que va coûter le fait de le suivre. Et on a l'impression bizarrement qu'il y a quand même plein de gens qui viennent à lui. On aurait pu penser que les gens auraient dit, bon, bah, c'est trop dur, je rentre chez moi. Et c'est une petite remarque au début de ce texte, mais parfois, quand on annonce l'évangile, on aime bien l'édulcorer. On aime bien dire, oui, viens, ça va être bien, tu vas voir, ça va être la fête, il est gentil. On n'a pas envie de dire, viens mourir à la croix. Est-ce que vous avez déjà annoncé l'évangile comme ça? Salut, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a Dieu, il t'a demandé de venir à la croix. Et pourtant, les gens répondent à la vérité difficile de l'évangile quand elle est annoncée avec amour. Et Jésus, on sait qu'il l'annonçait avec amour. Il voyait qu'il les aimait. Et on voit qu'ils répondent nombreux, en fait. Donc il est avec tous les péagers et les pêcheurs qui sont là pour l'entendre. Et ici on a un passage qui est vraiment beau, on a un des passages peut-être préférés de l'évangile, on a eu des passages difficiles où on rechigne un petit peu, il nous dit que ça va être dur, que ça va nous coûter, et là on a un passage qu'on aime bien où il parle de l'amour, du fait qu'il nous aime, qu'il nous cherche. C'est un passage tellement beau sur l'amour de Dieu. Il y a des commentateurs ou des théologiens qui disent que ce chapitre est un petit peu l'évangile dans l'évangile de Jean, de Luc, pardon. Et que c'est un petit peu le cœur de cet évangile de Luc. On avait parlé du fait que le thème, le leitmotiv de l'évangile, c'était Luc 19:10, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et on voit dans ce texte qu'on a trois histoires qui parlent exactement de ça. Et c'est toujours bien d'avoir des histoires. On pourrait aborder l'amour de Dieu et le quantifier. En parler avec des termes techniques, avec des ologies, et des etc. Et dire qu'il est grand et haut et fort et machin. Et nous, humains que nous sommes, on réagit mieux avec des images, avec des histoires, avec des choses qui nous donnent un contexte et qui nous font comprendre. Et les histoires qu'on a ici, que Jésus nous donne, quand on passe du temps dessus, quand on y réfléchit, nous permettent vraiment de voir quelque chose, de comprendre l'amour de Dieu de manière plus profonde et plus peut-être parlante que si on avait que des termes techniques ou des choses. Des mesures ou des. Ça nous fait comprendre l'amour de Dieu. Et dans ces histoires, on a quelque chose qui ressort, qui est. Et pour les scribes et les pharisiens de l'époque, c'était une surprise, mais c'était l'idée que l'amour de Dieu est un amour actif, que Dieu n'est pas passif au ciel à dire j'accepte les gens qui viennent à moi. Moi, je suis assis sur mon trône, et si les gens veulent bien se déplacer et venir dans mon royaume devant mon trône et s'agenouiller devant moi, à ce moment-là, je veux bien les aimer. Non, Jésus est actif, Dieu est actif. C'est lui qui nous a cherchés en premier, c'est lui qui est descendu, c'est lui qui est venu sur terre s'incarner pour payer pour nous, c'est lui qui nous convainc de péché, de justice, c'est lui qui travaille dans nos cœurs avant même que nous venions à lui. Si nous le cherchons, ça n'est jamais qu'une réponse à ce qu'il a déjà fait. Tournons-nous dans Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est souciée de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de son peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Les péchés, les péagers. Les péagers, c'était ceux qui collectaient les péages. Par association d'idées, on parle d'un péage comme étant l'endroit où l'argent est pris, mais en fait le péage c'est ce qu'on paye, et c'est l'idée d'avoir le droit de mettre le pied, de passer. Le mot ici peut vouloir dire ça, c'est collecteur de droits de passage, mais aussi simplement collecteur d'impôts, et on sait que les collecteurs d'impôts sont universellement appréciés. À l'époque, c'était parmi les plus détestés c'était des collabos. Si on pense aux collabos de la Seconde Guerre mondiale, ceux-ci, c'était un peu la même chose. Ils défendaient l'intérêt des Romains, qui étaient l'envahisseur, et ils servaient leur intérêt, ils percevaient les sous, et les Juifs les détestaient d'une manière... Les rabbins et les scribes et les pharisiens considéraient qu'ils étaient encore pires que les non-juifs. C'était il y avait la hiérarchie et les ceux-là c'était le plus bas possible. Les pécheurs, on connaît le mot, et les scribes et les pharisiens se moquent de Jésus ou se plaignent. Et c'est de l'accuser, on dit « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Les scribes et les pharisiens refusaient, pour certains même, d'enseigner la parole de Dieu à des personnes impures. Ils évitaient, on en a parlé certainement, de passer du temps, d'entrer dans leur maison, d'être vus avec eux, ils les évitaient. Les scribes, les pharisiens, ils s'étaient dit... On va les éviter, on va éviter d'être contaminés. Et pour eux, les impurs, ça incluait tous les juifs mauvais ou peut-être un petit peu moins zélés qu'eux et le reste de l'humanité. Donc c'était quand même, c'était assez. Ils divisaient le monde en deux. Il y avait eux et le reste du monde. Et le reste du monde était impur. Et pour eux, ils se réjouissaient presque de la destruction des pécheurs. Ils se disaient, ouais, Dieu, tu vas tous les zigouiller. Et c'est pas le cœur de Dieu, c'est pas le cœur de Jésus de détruire. Et Jésus, lui, mange avec ces personnes parce qu'il les aime, parce qu'il se soucie de leur état spirituel. ça lui tient à cœur. Et il y a plein de passages pour si on a besoin de s'en rappeler. Il y a Matthieu 9, 12. Jésus, qui avait entendu, dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Dans Marc 2, verset 17, Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et la même chose est répétée dans Luc 5, 31 et 32. On n'a pas besoin de s'y tourner, mais c'est les malades qui ont besoin d'un docteur, on en a déjà parlé, c'est les pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. C'est une idée simple, mais qui est à laquelle peut-être il est bon de méditer. Est-ce que les gens qui en ont besoin, est-ce que c'est Jésus que je leur donne ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que moi, quand je vais pas bien, quand j'ai besoin de quelque chose, est-ce que c'est à Jésus que je vais? Je suis pécheur et j'ai besoin de Jésus. Est-ce que c'est lui mon remède? Les scribes et les pharisiens, ce qu'ils faisaient, ce jugement, cette condamnation qu'ils émettaient sur les gens, c'est quelque chose que nous faisons aussi. On va regarder après avec la fin de la troisième parabole. Mais j'ai failli nous mettre des images, des photos de gens avec des stéréotypes, juste pour nous faire réagir. Il y a des gens, simplement des photos de certaines personnes. Quand on les voit, ça réveille en nous des certains sentiments. Dieu veut qu'on ait un amour agapé pour tous les hommes, et c'est pas notre nature. Et notre nature, c'est de réagir, c'est de dire quand on voit. Je parle pour ma part, comme ça Je suis mal à l'aise quand je vois une femme avec une burqa complète. Je suis mal à l'aise quand je vois des gens habillés en gothique. Je suis mal à l'aise quand je vois des skinheads avec des tatouages. Je suis mal à l'aise quand je vois des groupes de, j'en sais rien, peut-être de musulmans sortir de leur lieu de culte. Je peux être mal à l'aise dans plein de situations face aux gens, et d'une certaine manière, c'est pas une condamnation, c'est pas que je me réjouis de leur destruction ou que je les laisse de côté, mais Jésus veut qu'on soit confortable avec ces gens, qu'on soit à l'aise et qu'on se soucie d'eux, qu'on soit pas soucieux de notre confort, mais qu'on se soucie de ces personnes. Et Jésus, lui, était confortable avec ces gens que les scribes et les pharisiens ne pouvaient même pas aborder, presque ne pouvaient pas, à qui les scribes et les pharisiens ne pouvaient pas parler. Verset 3, ou verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Une petite histoire simple qui parle aux gens de cette culture. Si une brebis se perd, le berger va aller la chercher. Les bergers à l'époque étaient responsables de leur troupeau, souvent pour un autre maître, et s'ils perdaient des brebis, on leur demandait des comptes. Donc ils laissent les autres et ils partent chercher celle qui est perdue. C'est un travail qu'on comprend moins de nos jours. C'est un travail difficile, avec de la fatigue, le froid, les éléments, la solitude parfois. En 2008 ou 2009, avec un ami, j'ai fait la traversée du Vercors en randonnée. Et à un moment, on était sur un sommet et il y avait un gars qui était là et il était berger et il était avec des troupeaux sur le plateau du Vercors pendant l'été. Et c'était presque, ça m'a choqué de me dire tiens, ça existe encore quoi. C'est finalement, on se dit c'est à ce point qu'on le comprend pas. Et d'aller devoir chercher à droite à gauche si vous avez déjà perdu quelque chose de valeur, c'est difficile. D'autant plus que là, quand vous êtes dans la nature, est-ce que vous avez déjà fait du ski, vous avez fait tomber quelque chose. Bonjour pour le retrouver. Ou vous rentrez à la maison à la fin de la journée et il vous manque des clés ou un portefeuille ou un téléphone ou votre, j'en sais rien. Et vous êtes obligé de tout retracer, c'est frustrant et fatigant et épuisant et inquiétant et tout le mix d'émotions qui arrive d'un coup et cette joie qui vient quand on retrouve, si on arrive à retrouver ce qu'on a perdu, c'est beau. Des fois, on retrouve pas malheureusement ces choses-là, mais. C'est ces sentiments-là, cette joie d'avoir retrouvé la brebis. Et la brebis perdue, elle se trouve pas toute seule. Elle revient pas. C'est l'action c'est le berger qui la trouve. C'est lui qui cherche. C'est ce Dieu qui est actif, qui nous cherche, qui est pas passif. Il la trouve, il la porte, il la ramène et il fait la fête. Jésus est le bon berger. On a vu dans Ésaïe qu'il disait qu'on était tous comme des brebis errantes, qu'on était perdus. Dans 1 Pierre 2, si vous voulez vous y tourner avec moi, verset 24 ou verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger, le gardien de vos âmes. On connaît cette image et il est bon de se le rappeler. La chose perdue n'est pas à sa place. La brebis, elle doit être avec le troupeau, c'est ça sa place. Nous, quand on est loin de Dieu, on n'est pas à notre place, on n'est pas tel que nous devrions être. L'homme sans Dieu est incomplet. Et vous remarquerez, Jésus prend soin de noter dans sa petite conclusion, il dit qu'il y a quand même le besoin de se repentir et de se tourner vers Jésus. Et Jésus était, son cœur c'était tellement ça, il était tellement triste parce que les pharisiens ne le comprenaient pas, ils se plaignent et là il veut leur montrer, il veut leur faire comprendre le vrai cœur de Dieu le Père. On peut se tourner aussi dans Ézéchiel. Il y a un passage qui est intéressant que dans Ézéchiel 34, et quasiment tout le chapitre parle contre les chefs d'Israël et contre le fait qu'ils n'ont pas soin de ce troupeau, de ce peuple de Dieu, de ce troupeau qui est le centre des intérêts de Dieu, de ses intérêts, de son cœur. Il dit au verset 2, « Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas perpaître les brebis? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses. Vous ne faites pas paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Elles ont été disséminées par manque de bergers. Elles sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne, elles ont été disséminées. Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin, nul ne les cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, oracle du Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et parce que mes brebis sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne, faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun soin de mes brebis, parce que les bergers se repaissent eux-mêmes et ne faisaient pas paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici contre les bergers. Je réclamerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus faire paître mes brebis, pour que les bergers ne se repaissent plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus une proie pour eux. C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis et j'en ferai la revue. Au verset 13, je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur le territoire. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habitables du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur parc sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. Là, elles reposeront dans un parc agréable et elles pourront paître dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Et ça continue. Ça parle du fait qu'il va établir sur eux mon serviteur David, parlant prophétiquement de Jésus. Parlant de Jésus qui va en quelque sorte accomplir cette prophétie. C'est fou, ces paroles parlent exactement de ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens. La drachme, verset 8. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perd une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Une femme a 10 drachmes, elle en perd une. Combien ça vaut une drachme? Ils estiment à un peu plus d'une journée de travail. Il y a plusieurs choses à prendre en compte ici pour comprendre cette idée, cette histoire de la femme qui peut-être fait tomber et garde quelque chose chez elle. À l'époque, il n'y avait pas de banque, ils n'avaient pas forcément de, ils économisaient pas, etc., etc. Ils vivaient au jour le jour, ils étaient en flux tendu. Quand ils perdaient l'argent qu'ils avaient, ça voulait dire qu'ils avaient peut-être, ils allaient peut-être pas avoir à manger. Là, maintenant, c'est quelque chose que nous, dans le monde occidental, on connaît moins. Dans la maison, les maisons de l'époque, c'était moins illuminé que chez nous. Vous pouvez allumer une lampe. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire quelque chose avec les plombs sautent chez vous, où il y a un problème avec l'électricité, EDF fait des travaux? Et vous sortez les bougies. Est-ce que vous voyez grand-chose chez vous? Ça, l'idée, là. Elle a sa petite bougie et elle est en train de... Il n'y avait pas de fenêtre, c'était pas des baies vitrées. C'était pas une pub pour la paire. Hein. C'était, il y avait peut-être une petite fenêtre et une porte, quoi. Et sinon, c'était fermé. Et le sol, il y avait de la paillasse, de la terre. Quand vous faites tomber quelque chose là-dedans, ça... Est-ce que vous avez déjà été dans des bergeries? Le sol, si vous faites tomber une bague, une pièce, est-ce que ça va être facile à retrouver? Non. Elle est obligée de vraiment s'activer, de nettoyer partout, de chercher, d'essayer d'espérer peut-être que la pièce fasse du bruit. Cette idée de 10 pièces, certains commentateurs disent que les femmes de l'époque se faisaient un collier avec 10 pièces. Et que ça leur servait un petit peu de signe de mariage. C'était un petit peu comme l'alliance. Et que si donc on perdait une pièce, c'était un petit peu comme si on perdait son alliance, sa bague. Et c'est un peu un déshonneur, quoi. C'est quelque chose où on est vraiment en plus peut-être de la valeur monétaire, il y avait peut-être cette chose en plus, cette idée. Et donc elle est active, elle cherche. On peut se répéter Luc 19, 10 par rapport à cette histoire que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu, cette pièce perdue, cette chose de valeur, cette chose qui a une importance pour elle. Si on veut peut-être tirer un petit peu plus, mais quelque chose en plus à méditer sur cette parabole, on pourrait se dire dans tout le texte, en fait, le passage avec les trois histoires, on pourrait se dire que la première parabole nous parle de Jésus, le bon berger, le Fils, qui ici, d'une certaine manière, c'est l'action de l'Esprit Saint à travers son Église. Qui cherche les gens perdus, qui nettoie l'Église et qui cherche à toucher le monde autour d'elle. Et on voit encore cette joie dans le ciel. Est-ce que vous vous imaginez souvent Dieu qui se réjouit? Est-ce que c'est une image on pense peut-être à un Dieu sévère ou limite peut-être bon, mais qui est un petit peu assis sur son trône. Je crois que c'est un bon exercice d'essayer de s'imaginer Dieu qui se réjouit à l'idée que nous nous repentons et nous venons à lui. Dans Sophonie, c'est un livre qu'on ne lit pas souvent. Mais il y a un verset qu'on aime bien, qui est le verset du chapitre 3, verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Si vous vous dites, et vous réfléchissez à la joie que vous avez quand vous trouvez quelque chose que vous avez perdu, si vous vous dites « Dieu, d'une certaine manière, fait l'expérience, vit ce même type de joie », c'est fou de se dire que Dieu est là. Ouais, il est joyeux. Et de lire les commentateurs, de lire certains des écrivains, des théologiens qui ont réfléchi à ces choses, il y a des écrivains qui avaient la plume plus artistique et qui disaient par exemple que les anges, je sais plus comment c'était dit exactement, c'était en quelque sorte que cette joie était leur breuvage, que c'était ce avec lequel ils faisaient la fête, c'était le comme le vin qu'ils buvaient. Et l'auteur C.S. Lewis, que vous connaissez peut-être, qu'on cite de temps en temps, dit que cette joie de Dieu, d'une certaine manière, c'est le business du ciel. C'est ça c'est l'objectif un petit peu du ciel. C'est d'une certaine manière, quand on y réfléchit, quand on essaie de tirer l'essence presque de l'histoire de l'homme, de l'histoire des anges, de ce mystère de l'existence de l'homme et de pourquoi Dieu a créé le monde et Dieu a laissé les choses se développer comme elles se sont développées, pourquoi il nous a donné la liberté, le fait de pouvoir nous décider vis-à-vis de lui, notre libre arbitre, l'histoire de l'homme. Elle est basée sur cet objectif qu'a Dieu, qu'on le choisisse, qu'on l'aime. Et quand on le fait, il se réjouit. Il n'a aucun plaisir, aucune joie à punir les gens, à les condamner. Il le fait presque contre lui-même. C'est pas son cœur. Il n'aime pas quand nous recevons et subissons les conséquences de nos péchés. Je crois que c'est vraiment un bon exercice de réfléchir à ça et de méditer ça, que Dieu veut que notre travail, notre objectif, ce soit de réconcilier les gens avec lui. Souvent, on prie, notre principale préoccupation, ce sont les circonstances matérielles de nos vies. On se réjouit pour quelqu'un qui guérit, pour quelqu'un qui trouve du travail, qui trouve un appartement, qui obtient ce dont elle a besoin. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Dieu nous aime et veut pourvoir à nos besoins. Mais pour moi, c'était une bonne question de me dire combien de fois est-ce que je me réjouis vraiment du fait que je suis sauvé. Est-ce que ça m'émerveille vraiment? Est-ce que je suis vraiment convaincu encore de ma nature de pécheur et du miracle que ça constitue, que je puisse être réconcilié avec Dieu? Cette joie montre un petit peu notre intérêt pour le royaume de Dieu, si on est vraiment concerné par Dieu, par sa volonté et par son royaume, alors c'est ça qui doit nous donner la joie, c'est quand le royaume de Dieu grandit, quand le royaume de Dieu accueille des nouvelles personnes. Jésus est en train de dire, écoutez, le royaume de Dieu, ce qui fait la joie et le plaisir du royaume de Dieu, c'est quand un pécheur se repent et vient à Dieu. Si nous sommes vraiment des sujets du royaume de Dieu, alors c'est ça qui va faire notre joie. On doit avoir cette joie d'avoir retrouvé quelque chose qui était perdu. C'est fou de se dire que ça, c'est presque la principale occupation, le principal travail de Dieu actuellement, c'est d'essayer de nous ramener à lui, par son amour, par son esprit, par son Église. C'est ça c'est ce qu'il veut faire. Sa volonté dans nos vies, sa volonté dans la vie de Jésus, que Jésus aille à la croix, c'était tout pour cet objectif. Verset 11. Les deux fils. La parabole du fils prodigue, qui est une mauvaise appellation. On devrait l'appeler la parabole du père qui aime. La chose qui devrait attirer notre attention, qui devrait nous rester de cette parabole, c'est le père. Le jeune fils s'en va, prend son héritage, s'en va, gaspille tout et revient quand ça va plus. Le père l'accueille avec joie, fait la fête, et il y a l'autre fils qui est énervé. Donc le plus jeune fils, il vient et il dit « Donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père lui donne. Et après, le jeune fils prend tout ce qu'il a et il part. Le jeune fils, sa demande, c'est un petit peu comme dire « J'en ai marre d'être ici et d'attendre. J'aimerais bien avoir mon héritage. J'aimerais bien que tu y passes. » D'une certaine manière, c'est un petit peu ça, quoi. Bon, j'ai assez attendu, t'es toujours pas mort, est-ce que tu peux me donner ton héritage pour que je puisse aller m'amuser? C'est ça, c'est moche là, hein, c'est pas, y a rien de beau. À l'époque, normalement, ils attendaient. Ils restaient avec leur père, et une fois que le père passait, ben, ils prenaient leur part. En gros, il est en train de dire, j'ai envie de m'amuser loin de toi. Tu me fatigues, le travail, rester ici et servir, ça m'ennuie, j'en ai marre, je veux la liberté. Il en a marre de là où il est. Le péché promet la liberté et nous donne l'esclavage, la mort, toujours. On connaît ces passages, quiconque commet le péché est esclave du péché. Ou le salaire du péché, c'est la mort. On se dit que ça va être bien, on se dit que ça va être cool, loin de Dieu, qu'on va aller s'amuser, que ça va être chouette. Et on se retrouve plus ou moins tôt dans une situation horrible. Pour nous, ce jeune fils, il y a quelques dangers qui devraient nous mettre en garde. Si nous accordons plus de valeur aux choses qu'aux gens. Le jeune fils, d'une certaine manière, il se dit, mon père, ça m'est égal, quoi. Je vais partir de l'autre côté de la planète et si j'ai plus de nouvelles, c'est pas grave, quoi. Si on accorde plus de valeur au plaisir qu'au service, je veux moi, plutôt que de je veux faire ce que le Père veut ou ce que les autres veulent, ou si on passe trop de temps à réfléchir à ce qu'ont les autres ou à ce qui serait mieux ailleurs, de se dire ah là-bas dans le pays loin ça va être bien. Quand j'aurai mon héritage et que je pourrai aller m'amuser, ça va être génial. Dans 1 Corinthiens 7, Paul nous dit qu'on doit se satisfaire de notre condition. C'est difficile, mais ce sont des petites choses qui sont des indicateurs sur un danger imminent. Le fils se retrouve à travailler pour un non-juif avec des porcs. C'était le summum de l'horrible. Et dans sa misère, dans le texte, alors c'est où? Verset 17, rentrer en lui-même. Dans notre passage, il est dit ça, presque comme s'il était pris de clairvoyance. D'être la tête dans la boue, il arrive à réfléchir enfin clairement sur sa condition et sur qui il est. Et c'est intéressant parce qu'il ne se demande pas, comment est-ce que je peux améliorer ma situation ici, là? Je vais organiser un petit peu les pourceaux en groupe. Comment est-ce que je peux fluidifier le travail ici, organiser le... être plus efficace, là? Non. Puis il ne s'énerve pas sur les autres, sur son père, sur... Il n'a pas une autopitié où il se dit oh là là c'est dur, c'est la faute des autres, de la société, de mon patron, de mes amis qui m'aiment pas, etc. C'est pas sa réflexion. Sa réflexion, c'est il pense au Père. Il se focalise sur le Père et en se focalisant sur le Père, il voit clairement que c'est lui qui a péché et qu'il a péché par rapport au Père et qu'il doit aller au Père. Il réfléchit et puis il agit. La repentance, ça doit être accompagné d'action, ça doit être un changement de comportement. On l'a dit et je le redis. Si on compare les deux demandes de ce jeune fils, sa première demande, c'est « donne-moi ». Et sa deuxième demande, une fois qu'il est revenu à la raison, c'est « fais de moi ». Pour nous, ça doit être une bonne chose. Est-ce qu'on demande à Dieu, donne-moi, 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 ou est-ce qu'on demande, fais de moi ce que tu veux? Je serai plus heureux comme ça que si tu me donnes tout l'or du monde et que je vais de l'autre côté de la planète. Ça fait penser à Nebuchadnezzar qui mange l'herbe dans les champs, poussé par la folie, et qui, à un moment, se met à réfléchir clairement et qui loue Dieu. Qui se rend compte de sa condition et qui réfléchit enfin. Dans ces trois exemples, on a toujours cette idée d'une grande valeur, de quelque chose d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Là, le Père, il attend. C'est presque comme s'il attendait tous les jours devant la porte à se dire quand est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va bien. À l'époque, il n'y avait pas Skype. À l'époque, quand on partait loin, c'était fini. On n'avait plus de nouvelles, il n'y avait pas la poste. Hein. Peut-être s'il y avait une caravane qui passait avec des chameaux, on pouvait dire « est-ce que ça va bien dans le pays là-bas ?» On ne savait même pas ce qui se passait à 100 kilomètres. On pouvait avoir la guerre, la famine et tout ce que vous voulez à Marseille. Il y avait peu de chance, ou peut-être on s'en apercevait un petit peu à Nice, mais... Là, le fils est comme mort. C'est ce que le père dit. Ce fils était vraiment perdu. nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu, et quand nous sommes loin de lui, on est vraiment perdu. Et Dieu a cet amour tellement, tellement grand pour nous. La grâce du Père est tellement belle. Le jeune fils a préparé tout un speech. Il se dit, je vais aller travailler comme le moindre des esclaves, ceux qu'on embauche à la journée, quoi. C'est un petit peu, aux États-Unis, les immigrés, souvent sud-américains ou mexicains, si vous allez dans les magasins genre Leroy Merlin, souvent aux États-Unis, il y a des groupes d'hispaniques qui attendent à côté. Et l'idée, c'est qu'ils sont prêts à travailler au noir pour vous faire des travaux. Si vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vienne vous creuser un trou dans le jardin, ben vous passez au magasin et il est prêt à venir pour quelques dollars. Et c'est ça l'idée ici. C'était des travailleurs, c'était pas des esclaves qui étaient employés de la maison, c'était des travailleurs qu'on prenait, qu'on jetait, suivant les besoins. Le fils se dit, je vais préparer tout mon speech. J'ai enfin compris ma position. Et on voit que le père, il s'en fout. Il est tellement content, il court. Un vieux qui court, une personne, imaginez une petite personne âgée qui se met à courir. C'est d'une certaine manière, ça manque presque de dignité. C'est pas quelque chose qu'on s'imagine. Mais il court vers lui. Le texte original indique qu'il l'embrasse de multiples fois. Il fait au-delà de tout ce qu'espérait ou attendait le fils. Il lui donne tout ce qu'il a, toute son autorité. Si on regarde la symbolique, la bague, le manteau, les chaussures, la fête, il le restaure presque plus que complètement. Et il ne critique rien. Il ne retient pas la faute du fils. Est-ce qu'il en parle? On n'en parle pas. C'est même pas abordé. C'est l'autre frère qui est jaloux qui parle de ça. Le père, lui, c'est incroyable. Rien de ce que nous pouvons faire ne peut nous éloigner du Père si nous nous tournons et nous revenons vers lui. Tournons-nous dans Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés, il fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce, il est lent à la colère et riche en bienveillance, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent et sa justice pour les fils de leurs fils. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine, mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que nous pardonnons comme ça? Sans en parler, sans même retenir, en disant c'est oublié. C'est difficile, on est d'accord, on en a parlé aussi. On doit prier que Dieu nous remplisse de son esprit pour avoir cet amour agapé. Jusqu'à maintenant, jusqu'à là, tout va bien. Les pharisiens, peut-être, ils pouvaient se dire, ça va. Et c'est le deuxième fils, là, que Jésus leur assène un petit coup d'épée. Le père se réjouit, fait la fête. Et ce deuxième fils vient et il est énervé. Heureusement que le fils n'avait pas croisé son frère en premier. Vous imaginez ? Le frère aurait dit, mais quelle honte, tu t'as amené la honte sur notre famille, t'as brisé le cœur du père, t'es un fils indigne, t'es honteux, va-t'en, on veut plus te voir, t'es plus dans la famille. C'est ça le cœur du fils, du deuxième fils là. Lui, c'est le fils bien. Hein, bien. Qui fait ce qu'il faut, qui fume pas, qui se couche tôt, qui boit son petit lait, qui se soucie bien de ce que pense la société autour de lui. Lui, il fait bien le travail. C'est marrant, il y a ce contraste. Lui est resté et a servi le père. Il faisait d'une certaine manière la volonté du père, mais il le faisait comme un travail qu'il détestait. Dieu nous demande un service d'amour. Le père voulait un service par amour. Il aurait laissé partir le fils. Mais ce fils-là reste par obligation. Il faut... C'est un travail pénible. Il n'apprécie pas tout ce qu'il possède déjà. Tout est à lui. L'héritage a été partagé. Le jeune fils a pris sa part et tout ce qui reste, c'est à lui. On se dit, il est presque peut-être jaloux que lui n'a pas pu aller faire la fête comme l'autre fils. Il est un peu... Il se dit, j'aurais bien aimé faire ça, quoi. À force de regarder les autres, il est aigri. Il pense qu'il mérite quelque chose, mais... Il ne méritait rien, mais il est béni. C'est évidemment adressé aux pharisiens et aux scribes, cette idée qu'ils avaient tout. C'est fou de lire dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, Psaume, etc., de voir que toutes les choses que dit Jésus sont décrites dans l'Ancien Testament. Ils connaissaient tout ça par cœur. C'est fou quand même de se dire, on a lu Psaume 103, on a lu Ézéchiel 34, où il dit, attention, vous aimez pas mon troupeau, je vais vous l'enlever. C'est fou. Et alors on pointe du doigt les pharisiens, mais on est toujours à pointer du doigt l'autre. Et dans la parabole, comme je disais, l'idée c'est le père qui est bon et les deux fils qui sont mauvais. Les deux fils, ils sont mauvais mais de différentes manières. Paul nous parle de l'idée qu'il y a dans 2 Corinthiens 7, il nous parle de la souillure de la chair et de l'esprit. Il y a des péchés qui sont visibles, peut-être plus ouvertement, c'est le jeune fils qui les a commis. Il est allé boire, faire la fête, la drogue, le sexe, l'alcool, etc. C'était le visible. Et c'est souvent, on aime bien condamner. Et les pharisiens notamment aimaient bien condamner ça. Mais il y a d'autres péchés qui sont aussi des péchés et aussi graves, qui sont la fierté, le cœur dur, le manque d'amour, la critique, le jugement, la condamnation. C'est deux aspects. Et l'idée, c'est que on pourrait presque prendre cette parabole et se dire, quand nous sommes pas chrétiens, on est plus dans le cas peut-être du jeune. Et quand on devient chrétien, gare à nous de pas tomber dans la deuxième partie. Et hommes que nous sommes tous pécheurs. Et hommes pécheurs que nous allons tendre vers l'un ou vers l'autre. Notre cœur, notre chair, notre corps va toujours nous pousser. Le monde va nous tirer vers un côté ou vers l'autre. Soit ces choses visibles, soit ces choses dans l'attitude, dans le cœur. Donc pour moi, je me dis gare à ces choses, gare à cette attitude. Peut-être pour nous plus gare à ces péchés que commet le deuxième fils. C'est fou parce qu'en fait, il aime personne, quoi. Il aime pas son frère. Il parle du, c'est ton fils, quoi. Il va dire à son père, c'est ton fils. Il parle même pas de son frère. Et il aime pas le père. Le père fait la fête et lui, il lui dit, il est fâché. Il veut même pas venir faire la fête avec le père. Il veut même pas. C'est limite s'il veut lui parler. Est-ce que je me fâche quand il arrive quelque chose de bon aux autres, quand d'autres sont bénis, quand d'autres chrétiens se marient et pas moi, quand d'autres accomplissent les rêves de leur vie, quand d'autres semblent heureux et que moi je vais pas bien? Est-ce que je me réjouis sincèrement pour eux? Sinon, alors Jésus doit changer mon cœur. Qu'il est beau le Père là dans cette histoire, c'est. Je vous invite à vraiment à méditer sur ces choses. Cet amour, cette joie, ce cœur, ça devrait nous pousser aussi à plus partager notre foi et à avoir ce zèle pour les autres. C'est quand nous sommes comme le deuxième fils, en fait, qu'on partage pas, qu'on n'est pas soucieux des gens autour de nous. C'est qu'en fait, on n'aime pas vraiment Dieu et on n'aime pas vraiment les autres. On doit prier que Dieu nous remplisse de son amour pour qu'on. Et de passer du temps et de réfléchir à l'amour de Dieu pour nous, de réfléchir à la grâce qu'il fait envers nous, ça devrait nous pousser, ça devrait produire ce. Par l'Esprit Saint, ce fruit d'amour pour les autres et pour Dieu en nous. C'est quelque chose qui demande du temps. On doit y réfléchir. Pour finir, je voudrais lire dans Éphésiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu aux saints et aux fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Père de notre, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse le connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car lui, par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Quand on lit ces passages, si on réfléchit à ce Père qui accueille le Fils qui était loin ou le Fils qui était proche dans sa maison, que c'est lui qui a tout donné, qui a toute la richesse de la vie de Jésus dans les lieux célestes, ça donne du relief à ces passages avec Paul, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tous les édifices bien coordonnés s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour une habitation de Dieu en esprit. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous, que je vous en fasse part. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui à qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Jésus parle à nos cœurs et que ces choses s'ancrent dans nos vies. Que comme Paul, réfléchir à ta bonté, à ton amour, à ce plan, ce mystère qui nous a été révélé, que nous voyons maintenant, Seigneur, ce mystère, ce fait que tu veux nous réconcilier à toi, que cette chose nous pousse à à t'adorer, à te louer, à t'obéir, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, nous prions. Amen.